il devrait être de retour. Fait que passez une bonne soirée.
Salut!
Une station créée pour les gens de Québec. Yeah! Pas de script, pas de personnage, pas de rire en canne, de la spontanéité à l'état pur. Ici, la radio que vous voulez entendre avait l'instinct de parler de ce qui vous intéresse.
That's amazing.
Et jouer la musique que vous aimez.
There's nothing fake.
Chaque jour, on vous livre notre quotidien, votre actualité, au rythme de ce qui se passe dans notre ville et partout ailleurs dans le monde.
Bring the country together.
Mettant en vedette plein de dudes puis de dudettes bien sympathiques qui connaissent leur affaire.
You didn't know it until now.
Aucun film.
Dans l'auto, à la maison ou au bureau, tout le temps, c'est Boulevard 102.
Salut, bonsoir Québec, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 en espérant que tu aies passé une belle journée. On va certainement passer un excellent 60 minutes ensemble puisque le podcast de Marceau Soir va débuter dans les prochaines secondes. Juste avant, allons voir ce qui va se passer à la météo pour ce qui est des prochaines heures. Un ciel dégagé, surveillez la lune ce soir, elle sera belle, minimum de 6 degrés. Pour ce qui est de demain, mercredi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 26. Pour ce qui est du facteur humidex, oui, on commence déjà à parler du facteur humidex. Donc demain, ça va être une température ressentie de 29 degrés. Pour ce qui est de jeudi, toujours du soleil avec un maximum de 25. Vendredi, on nous prévoit une alternance de soleil nuages avec un maximum de 20 degrés. Samedi, dimanche, pour l'instant, c'est de la pluie, mais ça a le temps de changer. Mon invité de ce soir, c'est nul autre que Pierre Jobin.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée.
Pierre Jobin. Un homme aux multiples talents, c'est un animateur, c'est un ex-journaliste, un ex-chef d'antenne, c'est un ex-directeur d'information, c'est un pilote d'avion. Pierre Jobin, tellement content de passer la soirée avec toi.
Bonjour Yannick, merci pour l'invitation.
La dernière fois qu'on s'est croisé, c'était chez Pro Aviation à l'aéroport international Jean Lesage. Je prenais mes cours de pilotage, puis toi aussi tu prenais tes cours de pilotage, donc long time no see.
Exactement, et puis... C'est une tellement belle passion. C'est comme le vélo en passant. Hein? Quand tu fais du vélo une fois dans ta vie, tu es capable après de toujours repartir et en faire. Est-ce que tu voles toujours?
Oui, effectivement. Ça fait déjà un bon bout de temps que je n'ai pas volé, là, mais ça fait partie de mes plans de retraite, ça. Aller devenir pilote de brousse, puis aller me promener au travers les montagnes, puis aller m'amuser. Mais pour l'instant, là, je me consacre à la radio. Mais la dernière fois que je t'avais croisé, Pierre, tu étais à l'aéroport international Jean Lesage, puis je me disais, mais est-ce que c'est une de ses passions, ça, l'aviation, ou est-ce qu'il veut en faire un métier plus tard?
Non, c'était une passion et moi, j'ai fait mon cours. Tu sais comment c'est demandant, ce cours-là? Là?
Ouais.
J'ai fait mon cours. J'avais mon troisième enfant était né. Alors, j'avais trois enfants. J'étais chef d'antenne. J'ai été obligé de le faire au privé parce qu'ils n'ont pas dans les classes le soir. Alors, moi, j'étais un lève-tôt. Ça fait que j'étais là de 7h à 8h30 le matin. Puis, je m'en allais là après le bulletin de midi et demi jusqu'à 14h environ, jusqu'à temps qu'on ait une autre réunion. Ça fait que je faisais mon cours le matin et l'après-midi. Et j'ai réussi à le faire en 13 mois quand même. Alors, avec trois enfants puis une job à temps plein.
Ah, mais c'est beaucoup d'informations qu'on doit rentrer dans notre tête. Puis en plus, t'avais du travail au travers de ça, plus les enfants, plus la conjointe. Mais tu es allé chercher ton commercial aussi, ce que je trouve...
J'ai commencé le commercial.
Ouais.
Parce que je me disais peut-être qu'un jour, je pourrais faire des tours de ville. Il y en a qui font ça à Québec. Ou du charter, qui sait, là, comme tu dis, en hydravion, aller dans le nord, reconduire des gens ou autre. Là. Mais bon, la vie, en fait, autrement, j'en ai fait plutôt un loisir. Je m'amuse avec ça de temps en temps. Et puis, ça demande beaucoup de concentration aussi, beaucoup de communication. Alors, on a de superbes panoramas, surtout à Québec. À Québec, c'est superbe. Moi, je suis allé me poser souvent sur les îles, sur le Saint-Laurent, même des petites îles de piste en terre. C'était quasiment de la brousse, mais c'était une belle passion. J'en fais encore à l'occasion.
Ouais, c'est le bonheur. Puis j'ai retrouvé à peu près le même bonheur en faisant de la plongée sous-marine. On se concentre sur nos instruments, puis on admire le paysage autour, même à faire en moto. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme une façon de s'évader, je pense.
On a beaucoup de points communs. J'ai fait de la moto aussi, puis j'ai de la plongée sous-marine aussi. Alors, on est pas mal complet.
Ben oui, effectivement. Pierre Jobin, je parlais de toi la semaine dernière avec Gérard Deltel, puis il n'avait que de bons mots pour Pierre Jobin. Ça fait combien de temps que tu étais dans l'univers télévisuel? Tu as été là pendant des décennies et des décennies.
J'ai été 28 ans à TVA, puis à peu près 5 ans du côté de TQS, qui fait plus ou moins 33 ans. Ça, c'était en télévision, puis après, ça a été la belle aventure aussi pour terminer une carrière, la belle aventure Cogeco pendant près de 3 ans comme directeur d'information au 98.5 à Montréal. Mais oui, ça a été une belle carrière. Puis moi, j'ai commencé à 15 ans à la radio, à la nuit, à être juste disque jockey. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'ordinateur qui contrôlait la musique, là. Alors, j'ai commencé tranquillement pas vite à 15 ans, puis un micro s'est offert à moi la fin de semaine, puis ça a commencé comme ça, en gros, là.
Est-ce que tu voulais être journaliste? Est-ce que tu voulais être chef d'antenne plus tard? C'était un de tes rêves aussi?
Je voulais être prêtre au début, là. Pompier ensuite. Mais non, ben oui, tout à fait, parce que moi, je regardais toujours Bernard de Rome et son style. J'écoutais beaucoup les nouvelles quand j'étais jeune.
Ouais.
Et je me suis dit que oui, j'aimerais ça épouser le journalisme et qui me mènerait sûrement, parce que ça, j'y croyais beaucoup aussi, à faire du terrain. C'était très important pour moi, parce que j'ai travaillé avec des gens, surtout des cadres à une certaine époque, qui n'avaient jamais fait de terrain et qui se permettaient de dire des choses sans avoir vécu la réalité du terrain. C'est beau de dire, va-t'en faire une entrevue, va-t'en faire ci, va-t'en faire ça, mais là, t'as la pluie, t'as la circulation, t'as des impondérables, t'as une caméra qui ne fonctionne pas, t'as un problème à trouver ton invité. Ça ne marche pas tout en une heure, faire un reportage, alors... Avoir été sur le terrain, ça me permettait aussi, je pense, auprès de mes collègues, d'avoir une crédibilité puis de les comprendre. Puis de dire, bon, regarde, si Mario, il n'est pas à temps, il n'a pas fait exprès, Simonac, parce que là, il est dans le trafic ou bien il y a eu un problème avec sa caméra. Mais il faut la comprendre, je pense, la réalité du terrain, c'est important, ça.
Puis, tes premières armes en journalisme, est-ce que tu as été à l'Université Laval?
Non, moi, j'ai un parcours particulier. Moi, j'ai étudié en administration.
Oh.
J'ai jamais étudié. En fait, je voulais travailler dans la communication au Saguenay, mais nul n'est prophète dans son pays, puis ça marchait pas, puis ça marchait pas, puis ça marchait pas. Alors, je suis allé m'inscrire comme auditeur libre en arts et technologies des médias, puis j'ai suivi quelques cours, et dans mon CV, j'ai pas fait de menterie, j'ai marqué auditeur libre en journaliste, mais j'ai étudié en administration à l'Université du Québec à Chicoutimi. Mais toujours, j'ai étudié en administration, j'ai travaillé en administration, mais j'ai toujours eu, depuis l'âge de 15 ans, quand même un emploi dans le monde des communications, parce que c'était une passion, mais aussi, il fallait que je gagne ma vie et que je paye mes affaires. Alors, ça me prenait un travail à temps plein. Et dans ce temps-là, à CJMP, qui était Télémédia, il y a des gens qui étaient là depuis 12 ans, puis qui étaient surnuméraires, puis qui n'étaient pas sûrs de leur emploi. J'ai dit non, moi, je ne vivrai pas avec cette insécurité-là tout le temps. Je vais me trouver une job dans d'autres choses, en administration, puis je vais m'en faire un dada des communications. Mais ça, j'ai jamais eu peur de travailler 6 ou 7 jours semaine, alors ça m'a permis de le faire.
Mais qui t'a donné tes premières chances à Québec quand t'es arrivé?
À Québec, c'était M. Jean-Pierre Pampalon avec Gérard Deltel. J'avais envoyé mon CV comme Gérard Deltel à l'époque. Et je me souviens de l'entrevue de sélection. Guy Lafleur était revenu au jeu. Là, tu vas me corriger, Yannick, là, ça se peut que je me trompe, mais je pense que Guy Lafleur était revenu avec les Nordiques après un passage chez les Rangers. Puis il avait dit, il avait fait une bonne saison en plus. Puis Guy Lafleur disait, si je dis que je reviens, faites-moi confiance, je vais gagner, je vais scorer, je vais être bon. Et je me suis un petit peu servi de Guy Lafleur dans l'entrevue de sélection pour dire, écoutez, j'ai travaillé là-dedans, je ne suis pas à temps plein, mais j'ai travaillé là-dedans depuis plusieurs années. J'ai étudié en administration, ce qui me permet de comprendre les budgets, puis les ci, puis les ça, puis les budgets municipaux, fédéraux, provinciaux.
Ouais.
Alors, j'ai dit, faites-moi confiance, puis moi, je pense que je pourrais être un bon gars dans votre équipe. Je n'ai pas étudié en communication, mais je dis, la communication, puis le journalisme, c'est en quelque sorte des relations publiques. Il faut être en contact avec les intervenants, avec les politiciens. Je ne parle pas de relations publiques au sens seulement flatterie, mais c'est des relations publiques. Ça prend le contact humain, ça prend le pouvoir de convaincre, ça prend la curiosité, ça prend d'être sur le gun 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que à se promener dans la ville, moi, je me souviens, je me promenais dans la ville, je trouvais toujours un angle de reportage et quelque chose, au lieu d'attendre nécessairement les affectations. Alors, on m'a donné ma première chance avec Gérard, on a passé l'entrevue, on a passé un screen test, puis on était très nerveux. Et on a commencé sur le terrain avec Mario Vaillancourt, entre autres Gérard, des vieux de la vieille. Aujourd'hui, on a 63 ans, Gérard et moi.
Mais au travers de ça, t'étais avec des gars qui avaient étudié en sciences politiques, t'étais avec des gars qui avaient étudié en journalisme. Il y avait José Turmel aussi qui est arrivé dans le tas quelques moments plus tard. Là, je ne me rappelle pas, c'était l'autre début de mémoire. Je pense que c'est 89, 80...
Non, José est arrivé, c'est après 89, c'est après 90, 91.
Ouais.
C'est moi qui lui avais suggéré, elle s'était présentée, au Carnaval de Québec, entre autres. Elle avait étudié en communication, José, ouais. elle était très volubile, elle avait beaucoup d'entre-gens, mais je lui ai dit, tu devrais venir à TQS voir ce que ça donne. Alors, finalement, elle est venue, puis ça a été le début aussi de sa carrière. Et même pendant un bout de temps, on s'est fréquenté, José et moi, et pendant un bout de temps, tu avais deux chefs d'antenne qui se fréquentaient, qui vivaient ensemble et qui travaillaient dans deux stations différentes.
Oui, c'était assez particulier comme situation, ça, effectivement.
C'est surtout particulier parce que moi, j'avais fait un deal avec José. José, on dit, si j'ai mes affaires, tu entends parler, tu fais rien. Non, c'est beau, c'est beau. Puis à un moment donné, j'avais un scoop sur quelque chose. Elle prend le téléphone, je t'appelle où? Ben, je vais appeler. Non, t'appelles pas. On a fait un deal. Ouais, mais ils vont le savoir anyway. Ben oui, mais s'ils le savent, dans 30 minutes, on va avoir 30 minutes d'avance à TVA. Ça fait que t'appelles pas. ça a été un petit peu de la compétition comme ça pendant un bout de temps.
Je trouve ça formidable. Mais quand vous êtes arrivé à TQS, bon, ils t'ont fait confiance. Est-ce que tu avais un sentiment, je ne sais pas moi, d'imposteur? T'avais-tu l'impression d'être un imposteur parmi des journalistes qui voulaient faire leur place ou parce que c'était un endroit qui était à refaire? Tout est à refaire. Non, le bulletin
le
de nouvelles.
Le fait que j'ai travaillé dans les communications, je suis arrivé à TQS, j'avais quoi, 25, 26 ans. Ça faisait depuis l'âge de 14 ans que j'ai travaillé à Radio-Canada, j'ai travaillé à CJMP, j'ai travaillé à CKPP, j'avais un micro, j'avais une mission à la fin de semaine. Alors, j'étais pas, entre guillemets, journaliste, mais j'étais animateur de radiophonique. Ce qui me donnait une certaine expérience, le reste de l'administration, ben là, je ne sais même pas si Gérard Deltel est étudiant en communication, je me pose la question. Mais
histoire.
Et je dis encore la même chose aujourd'hui. Tu vas arriver avec quelqu'un qui a un talent immense pour ton entreprise, puis il n'a jamais étudié dans le domaine, mais tu sais que ça va être un vendeur exceptionnel qui va apprendre ça rapidement. Il ne faut pas trop juger juste par papier, puis par bac, puis par... par diplôme,
ouais.
Pour je pense faire confiance à quelqu'un. Il faut analyser les gens, mais on m'a fait confiance. De toute façon, j'aurais dit, si ça ne fait pas, vous me mettrez dehors. Et j'ai été journaliste de terrain pendant environ 5 ans. Et moi, je suis un petit peu insistant et persévérant. Et j'allais voir le patron très, très fréquemment pour lui dire, par exemple, André-Jean qui était là. André-Jean, il y a un décès dans sa famille. Il s'en va vendredi, puis il est malade la semaine prochaine, puis Je veux remplacer jusqu'au jour où on me dit « Bon, ben, ça fait assez longtemps que tu nous le demandes, on va t'essayer en ondes. » Alors là, ils m'ont essayé à la lecture du bulletin et je le faisais après ça pour remplacement et autres. Finalement, c'est devenu un emploi à temps plein à TQS. Mais on était aussi des dépricheurs à TQS parce qu'on essayait un nouveau style. C'est un style où j'avais des bretelles à une certaine époque, on était debout pour présenter un bulletin de nouvelles, on n'était pas assis derrière un pupitre. On avait une cravate aussi, on pouvait ne pas en avoir non plus. C'était un style un peu plus décontracté. Et je pense que ça a rapidement plu aux gens à l'époque.
Mais ça, est-ce que c'est un style que vous aviez développé ou c'est un style que vous avez repris d'ailleurs? Parce qu'effectivement, moi, j'étais très jeune à l'époque, mais quand on regardait les bulletins de nouvelles à TVA, exemple, c'était des caméras qui étaient très fixes avec un lecteur de nouvelles qui était jammé directement dans la télé. Puis par la suite, quand on switchait à TQS, là, c'était très dynamique, c'était de la jeunesse, on couvrait les faits divers. C'était incroyable, là, ce que vous avez amené, a priori, à Québec, là.
Exactement. Et c'est Pierre Tachereau qui était le directeur d'information. Et de mémoire, je pense que Pierre avait vu des bulletins à City TV à Toronto. Des bulletins dans ce style-là, un peu plus décontracté, assis sur le coin d'un bureau, se déplacer pour rencontrer un journaliste qui était en train de finir son reportage à l'ordinateur. Alors, c'était un style que je pense que Pierre a découvert du côté de Toronto, qu'on a adapté au Québec et qui a bien marché pendant des années. C'est dommage, d'ailleurs, parce qu'il n'y en a plus de styles comme ça. Et ça a été un succès, parce qu'on a battu et on a chauffé TVA à un certain moment de l'année, très sérieusement. Et maintenant, ça a disparu. On est revenu, que ce soit à nouveau à TVA ou en tout Canada, à des bulletins un peu plus classiques. Non? Quoique même quand moi, j'étais à la fête TVA, j'aimais ça sortir, aller sur le terrain. On me disait, je vais faire une entrevue avec Régis Labeaume sur le centre Vidéotron. On va aller faire l'entrevue. au moins dehors devant le centre Vidéotron. Si on peut faire des choses à l'extérieur, montrer des... ça rend plus vivant, on fait ça à trois caméras, c'est découpé plus rapidement. C'est un petit peu les, peut-être les restants de réflexes de l'époque, là. Mais la télévision, c'est de la magie aussi. Il faut des fois sortir des cadres, il faut sortir de nos habitudes et de notre zone de confort, des fois, pour amener des nouvelles idées aux gens. Sans ça, on s'enlise dans notre confort.
Pendant plus de 30 ans, tu as travaillé à faire des nouvelles, Pierre. Est-ce que tu suis ça encore beaucoup aujourd'hui, maintenant que tu es... Ben, j'imagine que c'est une pré-retraite que tu fais. Là. Est-ce que tu suis encore les nouvelles beaucoup?
Je suis énormément. Écoute, quand la guerre a commencé entre la Russie et l'Ukraine, j'avais dans mon salon 4 écrans branchés sur 4 réseaux différents. Et avec, parce que là-bas, c'est plus 6, plus 7, plus 8 au niveau des heures, tout ça, hein? Et je suivais ça. Là, je suis sur les réseaux sociaux, sur Twitter, je suis environ plus ou moins 400 sites, là. Et non, moi, je m'informe, je vais sur Twitter 10 fois par jour, je regarde ce qui se passe. Je sais que Poutine n'a pas encore répondu à l'invitation d'aller jaser jeudi avec Zelensky en Turquie et qu'il est coincé avec ça en ce moment. Mais non, je suis ça d'heure en heure. Et c'est le conseil que j'ai donné, d'ailleurs, à ma fille Anne-Sophie, qui travaille maintenant à LCTN et à TVA. Je dis Anne-Sophie, surtout quand elle étudie à Concordia, je dis Anne-Sophie, les jeunes, là, vous regardez vos nouvelles sur Facebook, puis sur Instagram, puis sur jeu. Mais il faudrait que tu te prennes un compte Twitter, que tu te prennes des sites d'information américains, anglais, francophones, britanniques, Al Jazeera, Némit, pour te faire une idée, en passant, pour pas juste avoir ta pensée unique, et que tu ailles voir ça en te levant le matin, quand tu dînes le midi, quand tu arrives le soir, avant de te coucher. C'est comme ça que tu vas être informé dans le monde où on est d'heure en heure sur ce qui se passe. Et je pense qu'Anne-Sophie prend ce truc-là. Puis s'il y a des jeunes qui écoutent et qui veulent s'en aller dans ça, et puis il y a des gens qui critiquent Twitter parce que c'est Elon Musk, tout ça. Bon, il faut apprendre, il faut en laisser sur Twitter. Il y a des choses qui sont manipulées. Il y a des bots russes, il y a des bots chinois, il y a des bots américains. Il y a un paquet de manipulations là-dessus, mais il y a quand même un fond de vérité. Il faut juste le déceler. Il faut juste aller s'informer, non pas seulement à une source, mais là, quand tu es rendu à 7, 8 ou 10 sources qui disent une chose, c'est pas quelqu'un qui essaye de juste manipuler qu'Emmanuel Macron prend de la cocaïne, là, ces jours-ci, parce qu'il y a un Kleenex sur son bureau, puis là, tu vois que c'est probablement les Russes qui sont en train de dire qu'il a caché de la cocaïne, mais il a enlevé un Kleenex sur son bureau, mais il prend de la cocaïne. Mais il y en a qui le croient. Il y en a qui croient à ces choses-là aujourd'hui, ce qui n'existait pas avant. Le phénomène des fake news inventé par Donald Trump, moi, j'ai toujours dit que du temps que j'étais à TVA, j'ai pas vu de fake news. J'en ai pas vu, mais aujourd'hui, ben tout le monde peut être quasiment, en tout cas, journaliste ou se prononcer. Puis il y en a qui traitent ça de fake news. Puis bon, mais il faut juste faire la part des choses. Puis quand on se renseigne bien, on finit par avoir le vrai fond de l'histoire, autrement dit.
Ouais. Mais visiblement, ce que j'entends, c'est que tu t'informes encore énormément aujourd'hui, même si t'es dans une pré-retraite. Est-ce que ça a été une belle fierté pour toi de voir ta fille qui a fait ses reportages? Parce qu'elle a fait sa propre trail. Là. Moi, je l'ai entendu à la radio pendant un certain temps, et par la suite, je l'ai vue aller faire un tour un peu plus vers la télé. Mais là, elle est vraiment dans son élément. Ça doit être une belle fierté pour toi.
Oui, oui, tout à fait. C'est là comme, en quelque sorte, c'est la troisième génération. Mon père était dans la communication, moi, je l'étais, ma fille l'est aussi. Puis, et j'ai coaché Anne-Sophie un petit peu au début, là. Mais honnêtement, elle vole vraiment de ses propres ailes, ça va très bien. Elle a traversé la frontière plusieurs fois, fait des reportages aux États-Unis. Elle se débrouille. C'est demandant, des fois, elle trouve que c'est demandant, parce que quand tu fais ça, c'est des horaires. De travail, il y a une urgence, il faut que tu continues. Il y a les médias sociaux, il faut que tu nourrisses aussi. Alors, c'est un peu peut-être demandant dans certains moments, mais je pense qu'elle se tire bien d'affaire. Et je lui dis toutefois une chose. D'abord, Anne-Sophie commence à Montréal. Je n'aurais pas voulu qu'elle commence à Montréal. Moi, je souhaitais qu'elle s'en aille à Sherbrooke ou à Saguenay, parce que quand tu fais une erreur dans une ville comme Montréal, ça, j'en ai vu, là, des talents malheureusement oubliés ou brisés, là. Quand tu fais une erreur dans une ville comme Montréal, ça pardonne moins que quand tu fais une couple d'erreurs à Sherbrooke et que tu fais tes classes en région pour par la suite évoluer. Mais ça a été le choix de TVA Montréal. Elle a d'abord été recherchée, elle était sur place. et ils ont décidé que, bon, elle restait à Montréal pour commencer sa carrière. C'est encore peut-être une plus grande fierté, là. Mais je dis toujours à Sophie, Sophie, vérifie tes choses comme il faut. Puis si ta mère te dit qu'elle t'aime, vérifie.
Ah, c'est un très bon conseil. C'est un très bon conseil. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les journalistes travaillent autant que les journalistes? Je pensais à Jacques Teasdale la semaine dernière parce que, bon, je connais un peu son fils, puis son fils est un peu choqué de ce qui s'est passé avec son père, bien entendu, et avec raison, là, le traitement qu'il a eu à l'hôpital. Mais Jacques Teasdale dormait dans son camion pour couvrir tout ce qu'il y avait à couvrir. Le journalisme d'autrefois, je dis d'autrefois, mais on parle des années 70, 80, 90, je veux dire, les gars et les filles qui travaillaient à l'information étaient constamment dédiés à ça, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Aujourd'hui, quelqu'un qui commence, ben c'est un horaire maintenant, un 40, 50, 55 heures par semaine, pas plus, là.
Ben, toi, tu parles surtout aussi, toi, dans ce cas-ci, des faits divers. Et là, les faits divers, en effet, c'était extrêmement prenant à l'époque. Il fallait que tu écoutes les scanners de police, on avait le droit. Ouais. Aujourd'hui, les ondes sont brouillées, alors ça te prend des bons contacts ou des remorqueurs ou des chums ambulanciers, parce que les informations sont peut-être un peu plus difficiles à obtenir. Mais oui, en effet, les gens des faits divers à l'époque, parce que tu étais dédié aux faits divers, c'était dans ton contrat. Si c'est un dimanche, tu sors. Il y en a encore qui le font très peu. Il y en a encore qui le font très peu. Mais sinon, c'est maintenant... En fait, ce qui est important, c'est l'image. Entre autres, à TVA, là, il y a une couverture image 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, s'il y a quelque chose au beau milieu de la nuit, au moins l'image est prise. On peut, après ça, appeler le journaliste, il peut s'en venir, puis là, à ce moment-là, ça va plus rapidement, puis ça peut être repris un peu plus tard. Là. Mais oui, en effet, il y a été une époque où les gars des faits divers devaient coucher dans leurs autos, puis écouter les scanners, puis tu reviens à la maison, ton corps de travail est fini, t'écoutes le scanner le soir, t'écoutes le scanner. C'était un petit peu comme ça que ces gens-là travaillaient à l'époque. Oui.
Est-ce que ça a été ton cas, toi, ton travail pendant ces décennies-là où tu as été à travers nos écrans? C'était du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Tu étais constamment tiraillé par ta vie personnelle versus ta vie professionnelle?
Oui, quand j'étais sur le terrain à TQS au tout début, là, et que j'ai fait aussi, je me souviens, je suis parti chez moi à 1h30 du matin, puis je suis arrivé sur des lieux d'un incendie du côté de Baie-Saint-Paul, de mémoire. C'est une ferme qui était brûlée. Puis quand je suis arrivé, en plus, je suis arrivé assez rapidement. J'entendais le fils pleurer parce que ses parents étaient dans l'incendie. Même chose pour l'incendie à l'île Verte. À l'île Verte, j'ai fait du terrain pendant 4 jours à moins 30, moins 40 degrés avec des vents d'enfer.
Ouais.
J'aimais beaucoup faire du terrain quand je pouvais en faire. Par hasard, j'étais au funérailles de Jean-Paul II parce que il décédait un samedi, je prenais l'avion le dimanche. Et un autre hasard, j'ai toujours dit, j'aimerais donc être à La Havane quand Fidel Castro va mourir. Et j'étais à La Havane le jour où Fidel Castro est mort. J'ai fait des reportages sur le toit de CNN là-bas. J'ai fait des reportages tout au cours de la semaine. Et ça a été vraiment une expérience à vivre. Le funérail du pape et aussi les funérailles de Fidel Castro.
C'est le genre d'événements qui ont marqué ta carrière, ça?
Ah, tout à fait, tout à fait. Surtout que, une autre chose, Yannick, du journalisme, en plus d'être toujours aux aguets et de toujours voir une idée ou de tout. Moi, je pense que j'ai 4000 numéros de téléphone dans mon cellulaire. Je donnais toujours, appelez-moi si c'est quelque chose, appelez-moi. Je lâchais un petit coup de fil de temps en temps à mes contacts pour avoir des nouvelles. Mais c'est la débrouillardise aussi qui est importante. Jean-Paul II, par exemple, va donner un exemple. Ça prenait une journée se faire accréditer pour aller au funérailles de Jean-Paul II. J'ai pas fraudé, j'ai rien fait de pas correct. J'ai juste pris ma carte de presse, je l'ai mis dans mon cou. Ça ressemblait à une accréditation. Et je suis arrivé devant la place Saint-Pierre. J'ai dit au policier « Bonjour », en le saluant un peu militairement. Il s'est tassé, je suis entré. Et là, au bout de la basilique Saint-Pierre, il fallait ressortir. Il y a un autre policier qui est là, je lui ai dit encore « Bonjour ». Et là, il se tasse, là. Et là, Yannick, j'étais au funérailles de Jean-Paul II comme si j'étais au funérailles de mon oncle Antoine. Il était à 10 pieds de moi. George Bush est arrivé dans la soirée. Aujourd'hui, avec les mesures de sécurité qu'on connaît, ça ne passerait plus. Mais je l'ai fait. Et pour Fidel Castro, la même chose. Je ne me suis pas fait accréditer. Mais moi, j'avais une demi-heure, sinon une heure d'avance sur les journalistes qui étaient en troupeau, encadrés. Alors que moi, je prenais mon téléphone et j'ai découvert le moyen le plus facile de communiquer puis d'envoyer des photos. C'était par Twitter. C'était la messagerie Twitter qui a envoyé ma photo instantanément. C'est ça à Cuba. Quand j'ai voulu couvrir, il a fallu que je download une application pour le vidéo. qui m'a pris 20 minutes à downloader, alors que chez nous, à la maison, ça prend 20 secondes, là, parce que c'est Cuba et c'est l'Internet de Cuba. Mais j'ai couvert Cuba, j'ai été dans les premiers aussi à envoyer des photos de Fidel Castro, parce que les journalistes étaient 30 à 40 minutes derrière moi, encadrés par les autorités. Alors, c'est de la débrouillardise, c'est pas illégal, c'est juste que tu veux la fin, vaut les moyens. Puis au pire, aller, le policier m'aurait juste dit « retourne de bord, t'as pas ta carte ». Là. Mais bon, alors, mais ça se ferait plus aujourd'hui. Ça, je conviens qu'avec les mesures de sécurité puis le terrorisme, ça serait un petit peu plus difficile sûrement. Là.
Mais il devait quand même y avoir un stress là, à passer devant les policiers, puis en sachant que t'avais pas ton accréditation officielle, puis de passer comme si de rien n'était, il devait quand même avoir un stress.
Ah, le pire qui peut t'arriver dans la vie, c'est un non. C'est sort d'ici, t'as pas le droit.
Ouais.
C'est pas comme je te dis, j'ai rien fait de frauduleux. J'ai pas fait une fausse accréditation. J'ai mis ma carte de presse du Québec dans le coup. Puis le policier, il me laissait passer en voulant dire qu'il est accrédité, c'est tout. Mais c'est juste d'oser le faire. Là. Mais tu peux pas être arrêté pour ça. Tu peux juste être repoussé. Ils peuvent juste te dire... Mais en même temps, des fois, le journalisme, c'est ça. Quand tu veux une entrevue, combien de fois... J'ai fait une entrevue avec une ministre. À un moment donné, je dirais pas le mot harcelé, c'est trop fort. Mais je lui ai écrit pendant une année, jusqu'à temps que je vois qu'elle publie quelque chose qui est un peu similaire à son histoire. J'ai dit, c'est drôle, vous ne me donnez pas d'entrevue, ça fait un an, mais vous donnez une entrevue où vous félicitez quelqu'un qui donne une entrevue sur un sujet similaire et pas moi. Elle me dit, j'aime la persévérance, vous viendrez me voir demain. Mais c'est ça, c'est la persévérance aussi. Ça a pris un an avant que j'aie cette entrevue exclusive-là. Et je pense que c'est persévérance, débrouillardise. Moi, j'avais beaucoup de difficultés à accepter un non. Quelqu'un me disait un non, je rappelais. Je trouvais un autre moyen. Je me présentais sans caméra. Je allais juste donner la main. J'ai dit, il n'y a pas de caméra, je vais juste vous rencontrer. À un moment donné, même, j'ai même attendu une heure dans une auto, dans un stationnement, pour avoir un rapport extrêmement confidentiel sur l'aéroport de Québec, justement. Et il fallait que je caviarde, il fallait que je prenne des notes vocales pour pas que ma source se fasse identifier. Mais ça m'a pris du temps à convaincre cette personne-là, puis j'ai été le seul à avoir le rapport-là. Persévérance, oui, il faut être à l'écoute, il faut aimer l'information. Si tu me dis, Yannick, que tu t'en vas en médecine puis que tu n'aimes pas le sang, là, ben tu ne vas pas en médecine. Si tu t'en vas en information puis tu aimes l'actualité, ben je pense que tu vas en manger puis tu vas en faire beaucoup.
Mais en plus d'avoir une équipe quand même assez incroyable là, à TVA, tu avais une grosse équipe qui travaillait avec toi. Moi, j'étais persuadé que c'était ces gens-là qui travaillaient pour toi et qui t'amenaient ces politiciens-là. Toi, tu me dis que tu faisais toi-même tes démarches personnelles, puis même des fois, tu y allais en douce, pas de caméraman, en disant « Hey, je vous serre la main, j'aimerais ça avoir une entrevue exclusive avec vous dans les prochaines semaines. » Tu travaillais beaucoup à l'extérieur du système.
Moi, j'ai jamais considéré et ça, je dis ça avec un peu d'ironie, que mon trône de chef d'antenne, là, c'était un trône, justement. Moi, je me suis toujours mis au niveau des autres. Il y a des journalistes qui n'étaient pas capables d'obtenir une entrevue parce que François X appelle une telle madame. La madame, elle va dire, je veux rien savoir, je veux rien savoir. Alors, donne-moi donc son numéro. Bonjour, madame, c'est Pierre Jobin. Mais moi, ça fait 20 ans qu'elle soupe avec moi, cette madame-là. Bonjour, madame, c'est Pierre Jobin. Mon journaliste vous a appelé tantôt. Moi, j'étais un gars d'équipe. Je pense que j'ai été chanceux d'avoir les équipes que j'ai eues, en effet, des journalistes aussi qui tripaient comme moi sur l'information. Mais par contre, j'ai toujours joué en équipe. Puis si des fois, s'il y avait des critiques ou des tabarouettes, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'était pas tabarouette, c'était plus top que ça un peu dans une salle de nouvelles. Mais le lendemain matin, je faisais, écoute, il y a un journaliste, entre autres, là, deux, trois fois, le lendemain matin, je faisais exprès, j'allais chez Tim Horton, je prenais un café. J'arrivais, salut, comment ça va? Je donnais une tape dans le dos. Tu sais, ça veut dire que tu peux chialer une journée, mais le lendemain, dire, hey, on est une équipe. Un capitaine de hockey dans le vestiaire, ben, il va toujours bien dire, qu'est-ce que t'as fait à soir, Simonac? T'allais pas dans les coins. Puis le lendemain, il va dire, hey, t'as bien joué à soir. C'est la même chose. Tu peux pas tout le temps être critique. Je pense qu'il faut jouer en équipe. Puis c'est peut-être pour ça que j'ai topé aussi longtemps, que j'ai duré. Parce que je me suis pas pris, je pense, pour un autre. Puis je me suis pris comme un gars qui porte le message d'un paquet d'autres gars qui travaillent pour moi. Mais moi, très souvent, à 6h, 6h30 le matin, puis moi, j'avais beaucoup de j'ai toujours eu les numéros cellulaires des gens importants au gouvernement, que ce soit municipal, provincial, même fédéral, et j'en ai jamais abusé. Mais quand j'appelais, et c'est moi qui le faisais souvent, quand j'appelais, je bookais des entrevues. Il y a des entrevues que les recherchistes bookaient, ça c'est dans le quotidien, mais des plus importantes. Je me souviens que j'ai réveillé le maire Labeaume qui était à Paris pour lui dire que le manège militaire était en feu à 3 heures du matin. Je ne le savais même pas, c'est moi qui ai réveillé le maire pour lui dire, pour avoir une entrevue avec lui. Alors, c'est parce que encore là, mon téléphone la nuit, ça faisait bip-bip parce que quelqu'un m'appelait pour me dire « Pierre, il y a quelque chose qui se passe ». Alors, ça venait, et même à Cogeco, dans les trois dernières années où j'étais là, le téléphone, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, encore plus, parce que j'étais responsable d'une vingtaine de personnes puis de la salle des nouvelles. Alors, faut être sur le gun. Alors, c'est pour ça que je fais des petits power naps, Yannick, des fois dans la journée. Vers 1h30, je casse, ça dure 5-10 minutes, puis je repars après, les batteries sont chargées.
La machine était là. Tu as été plus de 30 ans dans le salon des gens à lire les bulletins de nouvelles, à faire partie un peu de nos vies. Est-ce que ça a été dur pour toi, ta vie privée à l'extérieur, quand tu allais dans un restaurant, quand tu allais faire l'épicerie, quand tu voulais juste passer du temps avec ta fille, exemple, que tu nous parlais tout à l'heure? Est-ce que c'était dur sur l'interaction que tu pouvais avoir avec les gens? À un moment donné, ça devait être blasant, là, les gens qui te parlaient tout le temps?
Honnêtement, les gens ont toujours été très respectueux.
Ah oui?
Très contents de me voir en personne. Et souvent, je proposais je vous comprenne une photo ensemble, des choses du genre. Mais non, c'est très. Il n'y a jamais personne qui a été désagréable. Je te dirais que après la pandémie, supposons que j'avais été encore à l'antenne, là, j'imagine que j'aurais eu une coupe d'affaires d'un restaurant des complotistes pour me dire « Vous êtes une gang de ci puis de ça, vous autres les journalistes. » Mais ça, je n'ai jamais eu non plus. Mais les gens ont toujours été très respectueux. Et c'est drôle parce que tu parlais de l'épicerie. Il y a une caissière à un moment donné qui m'a dit « Comment allez-vous, madame? Comment ça va? » Je fais des blagues et tout. Qui m'a toujours dit « Mon Dieu, vous êtes naturel comme vous êtes naturel à la TV. » Parce que la télévision, Yannick, quand tu te prends pour un autre, ça paraît. Puis quand t'es tout croche, ça paraît. Si tu dégages quelqu'un qui, je pense, est sympathique, puis quelqu'un qui est proche des gens, bien, ça paraît aussi. Puis c'est ce que les gens m'ont laissé savoir, mais il n'y a jamais eu d'incursion dans ma vie privée qui a été désagréable. Là. Puis je pense que ça fait plaisir aux gens. Mon salaire vient avec les codes d'écoute, puis mon salaire vient avec ces gens-là qui ont un cahier d'écoute. À un moment donné, si je serre la main d'un gars d'un restaurant puis qu'il prend une photo de lui, puis dans 3 ans, là, il a son cahier, il va peut-être dire hey, « Oui, c'est sûr qu'on met M. Jobin. » C'est tout ça, le métier des communications. C'est d'être, je pense, 28 ans à TVA plus TQS, il y a des gens qui me disent, d'abord, il y a beaucoup de gens qui m'appellent Pierre encore aujourd'hui, ils ne me connaissent même pas parce qu'ils ont soupé avec moi pendant 30 ans. Ils s'assoyaient à table, ils écoutaient les nouvelles, je faisais des niaiseries avec Stéphane Turcot, on avait du plaisir. On faisait un petit peu d'humour, je pense, des fois pour détendre le bulletin en fin de bulletin. Mais j'ai fait partie de beaucoup de familles, en quelque sorte. Fait que peut-être que pour eux, j'étais un membre de la famille, indirectement.
Ben, les gens ont l'impression de te connaître, mais moi, je me disais, quand Pierre Jobin il est dans la section fruits et légumes, puis tu te lèves la tête, puis tu vois Pierre Jobin, bien souvent, le premier réflexe des gens, c'est hey, « Bonjour, Pierre, comment ça va? » Puis
Exactement, t'as raison. C'est ça, c'est le tutoiement, puis c'est comme... Puis ce qui est difficile, Yannick, dans tout ça, c'est que même d'anciens amis de l'école, qui, eux, m'ont vu à TV pendant 30 ans. « Hey, Pierre, comment ça va? Ça va bien, mais là, je te reconnais. » Je ne me reconnais pas, mais là, c'est parce que ça fait 30 ans que je t'ai pas vu. Je t'ai vu au séminaire ou je t'ai vu au cégep. Toi, tu me vois à TV, puis là, après ça, je replaçais mes idées. Ça a été une belle carrière, puis il n'y a jamais eu rien de désagréable. Puis il faut le rendre aux gens, ça. Les gens, si les gens t'aiment, ben, il faut que tu aimes les gens aussi. Puis je pense que ça a toujours été ce que j'ai fait là.
Durant ta carrière, quels sont les politiciens qui t'ont le plus marqué, que ce soit au municipal, au provincial ou au fédéral? Des politiciens que tu as rencontrés, lesquels t'ont marqué, puis pour quelles raisons?
Jean-Paul Lallier. Jean-Paul Lallier était, je pense, un bon maire pour Québec, hein. Un maire visionnaire, respectueux aussi, de la démocratie et des journalistes.
C'est un intellectuel aussi.
Oui. Du côté provincial, écoute, tu me prends un petit peu à brûle pour point. Moi, j'ai bien aimé, même si les gens ne l'ont pas beaucoup aimé, Pierre-Éliott Trudeau pour son style. Un style un peu baveux. On connaissait M. Trudeau. Là, je parle du style baveux. Je ne dis pas que je suis d'accord avec la loi des mesures de guerre et des choses du genre. Le Québec, je vais y passer pendant l'entrevue. Je vais te revenir tantôt. Là, je vais te revenir là-dessus. Avec qui j'ai eu des affinités un petit peu plus. Ben, affinité, je ne parle pas du sens politique, là. Mais Philippe Couillard était très accessible, il n'a pas été là longtemps. Philippe Couillard, on s'est parlé plusieurs fois de plusieurs dossiers, mais Mais décidément, pour la Ville de Québec, je pense que Jean-Paul Lallier a été un maire respectueux de ses citoyens, de sa ville aussi. Il aimait profondément sa ville et c'est dommage que, en raison d'une campagne médiatique, on n'a pas accepté le cadeau de la France qui nous donnait pour le 400e un superbe escalier entre les riches et les pauvres, entre Saint-Roch et la Haute-Ville de Québec. Et bon, ça c'est... Mais pourtant, Jean-Paul Lallier l'avait dans la poche, ce contrat-là, les Français nous donnaient ça en cadeau. Mais voilà, c'est le passé pour voir vers l'avant.
Mais est-ce que je décèle beaucoup d'amour pour la Ville de Québec de la part de Pierre Jobin?
Énormément d'amour. C'est une belle ville. J'y réside toujours. J'ai un condo à Québec, j'ai une maison à Montréal. Je me promène, je fais deux semaines. Et même ma conjointe qui n'est pas de Québec, on est toujours très en amour avec cette ville-là, avec la beauté de la ville, la proximité, tous les services qu'on a, tous les spectacles qu'on a, les hôpitaux, la beauté du vieux Québec. Oui, j'adore Québec au plus haut point. Oui.
Est-ce que Pierre Jobin a bien planifié sa pré-retraite?
Oui, tout à fait, oui. Ouais. Et le fait que je quitte TVA et que j'ai eu la chance de devenir directeur d'information à Cogeco, c'est quand même la station la plus écoutée au Canada. C'est pas l'Arcan, ouais. C'est Patrick Lagacé, c'est Ferrandez, Nathalie Normando. C'est quand même des grosses pointures. Et moi, j'étais au sein de cette équipe-là. Ce qui fait que ça me fait, je dirais, un bel atterrissage de carrière. J'avais une quarantaine d'employés, j'avais des budgets à gérer et c'est là-dessus que mon administration m'a beaucoup aidé dans mes budgets. J'ai démêlé des budgets que certaines personnes n'étaient pas capables de démêler, entre autres le budget des sports qui était très complexe. Mais ça m'a permis, d'atterrir tranquillement, pas vite. Mais là, je me suis juste dit que rendu à 62 ans, je voulais voyager un petit peu plus pendant qu'on a la santé. Mon père est mort assez jeune. Moi, je suis en très bonne santé en ce moment, mais je voulais juste profiter de la vie davantage. Je donne en ce moment de la formation. Je suis allé à l'école d'entrepreneuriat de la Beauce. J'ai fait récemment le débat des chefs au Parti libéral parce qu'on m'a demandé de le faire. Ce n'était pas une connotation politique. Ce n'est pas parce que je suis un libéral. J'ai toujours été neutre dans mes présences ou dans mes commentaires. Et je donne des formations aussi sur comment travailler avec les journalistes. Alors maintenant, j'ai moins d'attaches. Je peux donner certaines formations. Ça fait que je fais ça pour m'occuper au travers du sport, au travers du pickleball. Là, tu vas dire que c'est un sport de vieux, t'as beau le dire si tu veux, mais c'est très cardio quand même dans mon cas. Un peu de vélo, un peu de ski. Alors, l'important, c'est de bouger pour se garder en forme.
Okay. Ben, je suis content d'entendre ça parce que j'ai des chums, moi, qui sont des chums retraités qui étaient policiers, qui ont commencé leur retraite à 55 ans. Puis ça a duré comme 2 ans leur retraite. Puis après ça, ils ont décidé de se relancer dans un autre métier parce qu'ils s'ennuyaient d'être en dehors de l'action. J'ai d'autres amis aussi qui se sont retirés dans la quarantaine, qui sont des ex-militaires de l'armée canadienne. Quand on se retire jeune, il faut vraiment bien le planifier. Puis il faut avoir des passions. Puis faut avoir des bébelles à faire. Mais il faut surtout se garder un pied, des fois, dans l'ancien métier qu'on avait. Puis je pense que tu le fais très bien aussi.
Ben oui, puis ça, je l'ai préparé aussi, sachant que ça s'en venait. Alors, ça m'occupe par-ci, par-là, au travers de ma liberté, disons, puis au travers du sport, puis au travers des voyages. J'ai fait plusieurs voyages cette année. Alors, non, c'est d'être conscient aussi que... Tu sais, il y a des gens, je prends l'exemple de Paul Hood, qui est décédé, je pense, l'an passé ou deux ans.
Ouais.
C'est des gens qui auraient voulu rester à l'antenne jusqu'à 80, 90 ans. Mais à un moment donné, il faut laisser la place aux plus jeunes d'abord. Puis aussi, tu vois, c'est quand même... tu sais, je t'ai parlé du rythme. C'est quand même c'est un rythme assez demandant, assez stressant. On ne s'en aperçoit pas, c'est un stress positif, pas un stress négatif. On ne s'en aperçoit pas, mais tu es tout le temps sur le 220 quand même. Alors, si je peux m'offrir... parce que j'ai un peu moins de stress, plus d'années à ma vie et en profiter, ben, pourquoi pas. Mais à 55 ans, en effet, ou à 40, comme tes amis, là, non, je pense que je me trouverai un autre job, mais à 62, j'ai eu 63, là, à 63 ans, j'ai beaucoup de choses pour m'occuper. Je fais du sport, je fais du bateau, je fais du ski. L'aviation, ça fait 2 ans que je n'en ai pas fait, je vais en refaire un petit peu. C'est toutes des choses qui prennent du temps. Tu le sais, l'aviation, tu vas faire un vol d'une heure, ça peut te prendre plus ou moins 4 heures. Là. Tu te rends à l'aéroport, tu fais ton plan de vol, tu checkes ton avion, tu fais des affaires, hein, tu reviens, tu rattaches l'avion. Ça prend du temps. Maintenant, je l'ai le temps. Alors, c'est ce qui est le fun à faire.
Puis est-ce que c'est dans tes objectifs de t'acheter ton propre avion puis faire le tour, je ne sais pas moi, de l'Amérique?
Ça, c'est un peu complexe. Je parlais avec quelqu'un justement qui avait un avion en Floride et qui dit « j'ai plus de fun à voler en Floride ». T'es contrôlé, t'es constamment contrôlé. Tu peux même plus dire, je pars d'un point A à un point B. C'est vérifié, c'est contrôlé, en tout cas, du côté des États-Unis. Ici, au Québec, je pourrais peut-être avoir l'opportunité d'acheter un avion puis de me faire une piste dans un champ de la famille de ma conjointe. Là, que j'aurais ma petite piste privée en gravelle si je voulais. Là. Mais pas pour l'instant. Là. Pour l'instant, c'est un loisir que je veux garder. Je veux garder ma licence active. Puis... À un moment donné, je vais voir. Quand je vais trop m'ennuyer à la retraite, je vais acheter un avion. Parce que ça, c'est, les entretiens de ça, puis de remplir les papiers et tous les documents, c'est beaucoup de paperasse quand même.
Il reste-tu des rêves à obtenir pour Pierre Jobin?
Des rêves. J'ai fait pas mal d'affaires, en effet. Je te disais, on se parlait d'aviation, on en parlait justement parce que j'ai eu la chance, Yannick, parce que c'est quand il y avait les festivals aériens, de faire du F-18.
Oh.
Deux fois.
Oui.
Du F-16. J'ai fait les Thunderbirds américains, les Blue Angels. J'ai fait les Red Arrow britanniques. Et dans le questionnaire de décollage, on demandait si j'étais un pilote. J'ai dit oui. Et là, je suis parti avec le commandant de la flotte. Et le commandant de la flotte au-dessus du Saint-Laurent, il m'a dit « The plane is yours for 15 minutes. » Puis là, ton avion, tu es à toi pour 15 minutes. Fais ce que tu veux. Écoute, là, j'ai fait des... C'est Tom Cruise, là, tu parlais tantôt, en parlant que ton rêve, ça serait d'être un genre de Tom Cruise. J'ai été un petit Tom Cruise quelques fois dans ses le rêve qui est impossible, puis c'est difficile aussi de dire ça avec tout ce qu'on voit dans le contexte de guerre, mais être pilote d'un avion de chasse, my God, que j'aurais aimé ça, mais bon, c'est trop vieux pour ça.
Non, mais tu sais, juste les gars des Snowbirds, à un moment donné, il y avait une représentation à Saint-Isidore. Et il y a un des gars des Snowbirds qui avait de la famille, si je ne me trompe pas, à Rivière-du-Loup. Puis il a demandé au gars de l'équipe, avant de passer à Saint-Isidore en Beauce, d'aller faire un petit coucou à Rivière-du-Loup. Mais il y a à peu près 5-6 minutes qui séparaient le vol entre Rivière-du-Loup et Saint-Isidore, tellement que ça va vite. Être dans ces avions-là, ça devait être exceptionnel. Juste ressentir les G, là, ça devait être juste hallucinant. Là.
On est allé jusqu'à 9G, la combinaison, là. Mais reste que malgré la combinaison, il faut que tu contractes tes abdominaux. Mais oui, écoute, c'est des machines, ça. Écoute, tu prends un virage serré, la machine compresse, parce que le but de ça, c'est de faire en sorte que le sang s'en aille pas dans tes pieds, puis que ton cerveau soit plus irrigué. Donc, tout ton haut de corps est compressé par cette combinaison-là, ce qui fait que le sang reste dans le haut du corps pendant les virages serrés ou les loops ou ce que tu voudras. Là. Mais non, c'est vraiment des... Mais t'es épuisé après un vol comme ça, là, les pilotes qui font des missions, là, en plus, eux autres, surtout ceux qui sont en temps de guerre, là, ça doit prendre un bon spa après une bonne bière aussi, après un vol comme ça.
Ah, ça doit être exceptionnel, mais ça doit être une vie où ils doivent constamment se surveiller, ce qu'ils mangent, les heures de sommeil versus les heures de vol, l'alcool au travers de ça, ils doivent se surveiller constamment. Mais n'en demeure pas moins que rendu en haut, ça doit être un méchant trip d'être au volant, au guidon de cet appareil-là. On a fait le cours à la même école de pilotage, c'était chez Pro Aviation, à l'aéroport international Jean Lesage, puis il y avait deux ou trois types d'avions, puis moi j'avais choisi les katanas.
Oui.
Avec la grosse bulle au-dessus puis les ailes en bas. Et c'était juste d'être seul en haut durant le voyage solo qu'on fait là, pour notre examen. Juste d'être seul dans les airs. Moi, c'était à la hauteur de Victoriaville que je me souviendrai toujours. Il y a un aigle. Comme dans les films, Pierre, il y a un aigle qui volait à la même hauteur que moi, à peu près à la même vitesse. Il est venu me voir, il a regardé ce que je faisais, là, puis après ça, il est reparti. Ça fait partie des plus beaux moments de ma vie. Tu es seul dans les airs, puis il y a un oiseau qui vient juste te dire un petit coucou. Là.
Surtout le katana, en plus, c'est un petit modèle sport, ça, le katana. J'ai fait la moitié de mon cours katana, puis la moitié 152. Puis j'ai fait la moitié de mon cours à Montréal aussi, finalement.
Il y avait Saint-Hubert.
Une succursale là-bas aussi, parce que Pierre Bruno était malade pendant plusieurs mois. Et là, j'étais allé remplacer Pierre Bruno, alors j'avais fait une partie de mon cours du côté de... l'aéroport de Saint-Hubert à ce moment-là.
T'avais-tu une belle relation avec Pierre Bruno?
Oui, très belle, Pierre. Pierre est un gars très sympathique. Pierre m'a convaincu Alors que moi, le plus que je faisais à vélo, c'était d'aller chercher une crème glacée avec les enfants au coin de la rue, là, de faire 300 km Québec-Montréal pour la Fondation Charles Bruno.
Ouais.
Et je l'ai fait pendant 4 ans. Mais la première année, j'étais là, voyons, je ne ferais pas 300 km. Mais c'est l'effet de groupe, puis l'effet de peloton, puis l'effet dont on s'encourage, puis l'effet que j'ai 3 enfants en santé, puis qu'il y en a qui n'ont pas cette chance-là, ben je dis, garde. Quand même, j'aurais mal aux fesses pendant 2-3 jours. Parce que quand on arrête à Trois-Rivières pour aller souper, puis il faut rembarquer sur notre vélo, ça fait mal.
Pierre Bruno était rendu à un certain âge. Puis à un moment donné, tout le monde se posait des questions à savoir qui allait remplacer Pierre Bruno. Y avait-tu une certaine compétition à l'interne?
Non, parce que moi, j'étais à Québec et je n'avais pas levé le flag pour aller à Montréal. Jusqu'à temps que mon avis change et que ma conjointe soit de Montréal. Là. Alors, non, il n'y avait pas de compétition. Est-ce que si j'avais été dans la même salle que Pierre et Pierre... Se voyant vieillir ou la direction, est-ce que là, il y aurait eu des frictions? On ne s'est pas rendu là. On avait une bonne collégialité le midi, parce qu'on l'a fait pendant plus de 20 ans, tous les midis, Pierre et moi. Mais non, ça a toujours été très, très cordial. Il n'y avait pas de compétition entre nous. Là. Moi, j'étais dans mon rôle à Québec, puis j'étais bien. Je peux penser un petit peu au gouvernement français. J'aurais aimé bien être un gouverneur à l'extérieur de Versailles que de travailler dans Versailles, avec toutes les intrigues du château puis du palais. Alors, moi, j'étais très heureux d'être dans ma province puis d'être le numéro 1 à Québec plutôt que d'être le numéro 3 ou 4 à Montréal. J'aimais mieux ma qualité de vie là puis j'étais bien installé à Québec à ce moment-là.
Ah, c'est intéressant. Je rappelle aux auditeurs qu'on a le plaisir de passer la soirée en compagnie de Pierre Jobin. On va faire une très courte pause et on revient tout de suite.
Marceau, le soir. Dans le retour.
Vous savez, les produits miracles qu'on essaye de vous vendre sont pas tant miracles.
J'avais, pour le petit cours 101, j'avais commencé la pilule contraceptive parce que ça aide pour l'acné quand t'es adolescente. Et donc, quand j'ai arrêté ça il y a quelques mois maintenant, j'avais peur que ça recommence, les petits boutons. Et là, j'ai vu ces internets, toutes sortes d'affaires. Ils se sont mis à promouvoir. La compagnie, c'est Based Supplies. Eux, ils ont des bœufs, là, pis tout, là. Tant qu'à tuer l'animal pour le manger, ben, la graisse de bœuf, le suif, ils s'en servent pour faire des crèmes hydratantes. Je me suis mis la graisse du suif dans la face tous les soirs pendant 3 semaines. Et il y a plein de petits boutons qui sont dans la face.
J'avais remarqué que t'avais pas la même peau que d'habitude.
J'ai la peau complètement débalancée.
Gravel dans le retour, tous les jours en semaine, 14h.
Ouais, puis tous nos bons coups, les niaiseries d'Audrey, puis notre vie privée qui l'est plus pantoute, tu retrouves ça sur le blvd.fm.
Hey, ça en fait des choses à écouter, ça.
Décourante, spécialiste en garde-corps verre et aluminium, vous offre des produits québécois sur mesure, garantie 20 ans avec un rabais de 15%. Visitez deco-rampe.com.
Encore une période spectaculaire pour Hyundai. Quel match pour le Tucson, fiable en défense, puissant en attaque. Plus de 9 Tucson sur 10 vendus au Canada au cours des 10 dernières années sont toujours sur la route aujourd'hui. Quel joueur complet! Et pendant l'événement Hyundai en série, financez tous les Tucson 2025 à partir de 3,99% à l'achat. Le jeu reprend, la passe est faite vers la gauche, mise en échec en territoire.
Détails et conditions sur HyundaiCanada.com.
La saison estivale arrive! Vivez Québec autrement grâce au site récréo-touristique du Port de Québec. La Cale et sa terrasse sur le fleuve, l'Oasis pour une baignade en ville et l'Agora pour des concerts en plein air. Cet été, le Port de Québec, c'est la destination.
Planète Nutrition vous offre sa gamme de produits de marque maison à prix très compétitif. Ça vaut la peine! Planète Nutrition, c'est aussi un menu de 18 repas frais et de 8 repas congelés. Planète Nutrition, c'est un mode de vie. Saint-Georges, Sainte-Foy, Bouvier ou au planètenutrition.ca.
Imaginez ça 30 secondes. Vous arrivez chez Beauport Nissan ou Sainte-Foy Nissan et avec la location ou l'achat de votre nouveau Nissan, on vous donne le choix entre un rabais jusqu'à 1 500 $, jusqu'à 1 500 $en crédit pour des accessoires ou même 3 ans d'entretien prépayé. Pas facile de choisir, hein? Ce mois-ci, vous avez le choix. Alors décidez et roulez avec Sainte-Foy Nissan et Beauport Nissan. Certaines conditions s'appliquent. Détails en concession.
Mercado.fm vous présente son nouveau porte-parole qu'on paye pas parce que ça roule déjà très bien.
T'as bien raison! Voici les offres!
Obtenez une nuitée en micro-chalet d'une valeur de 270$ à 202$ chez Tanière Micro-Chalet Charlevoix. Ou encore une visite animée pour deux personnes d'une valeur de 50$ à 25$ avec les promenades fantômes.
Si ça, ça vous fait pas aller jeter un coup d'œil sur Mercado.fm, c'est parce que vous avez rien compris!
Divertissement, soins, hébergement, restaurant. Mercado.fm.
Chez Miville Climatisation, on est concessionnaire autorisé Mitsubishi Electric numéro 1 au Québec. On est même lauréat du prix Diamant témoignant de notre excellence. Grâce à nos thermopompes performantes chez Miville Climatisation, ça fait 57 ans qu'on garantit votre confort. Visitez miville.ca.
Vivace ou annuel, telle est la question. Fanny de ne pas être bien conseillée? Pour un bouquet de choix, une floralie de couleurs. Faites-vous une fleur et passez chez Floralie Jouvence, votre centre jardin sympathique. À Québec et Lévis, ouvert tous les soirs en semaine jusqu'à 21h.
C'est le moment parfait pour passer à l'électrique chez Marlin Chevrolet Buick GMC. Les subventions sont de retour et notre vaste inventaire d'Equinox et Blazer EV vous attend. Il y en a pour tous les goûts et ce n'est pas tout. L'événement camion bat son plein avec du financement à partir de 0% et plusieurs nouveaux arrivages ont fait leur entrée en concession. Ne manquez pas ça! On vous attend au 2145 rue Frank Carrel, Marlin Chevrolet Buick GMC, votre concessionnaire GM de confiance à Sainte-Foy.
Sur mes chantiers, j'ai assuré ma machinerie puis mes outils chez Beneva. Puis ils ont fait le tour de mes besoins. Tellement du bon monde! Ça m'a donné le goût d'être encore plus une bonne personne. Fait qu'à cette heure, sur mes chantiers, il n'y a pas une cantine, il y a 5 cantines. VG, vegan, keto, flexi quelque chose, puis un rack hot dog. La gang est bien contente.
Beneva. Bon monde, bon prix. Votre entreprise est bien assurée. Obtenez une soumission.
Rochette Excavation est présentement à la recherche d'un mécanicien et d'un chef mécanicien en machinerie lourde. Si tu possèdes une bonne force physique et que tu connais la mécanique sur le bout des doigts, ils aimeraient bien te rencontrer. Je te le dis, chez Rochette Excavation, on ne voit pas les journées passer. Rochette Excavation, c'est une entreprise familiale reconnue pour son excellence dans le domaine depuis 60 ans. Et si tu faisais partie de cette grande famille? Informations et détails au rochetteexcavation.com.
En montant dans un BZ4X tout neuf, vous pourriez tout d'un coup réaliser à quel point votre maison est géniale. Parce qu'en y branchant votre véhicule électrique dans une prise de courant ordinaire, elle se transforme en station-service. Mais chez vous, le café est meilleur. Tout ce qui reste à faire, c'est de le ramener à la maison. Pour un temps limité, vous pourriez obtenir jusqu'à 9 000 $ en rabais gouvernementaux et en incitatifs clients Toyota. Visitez htmatoyota.ca ou votre concessionnaire du Québec dès aujourd'hui pour toutes les conditions et repartez en Toyota.
Boulevard. Boulevard 102.1. La radio qui t'accompagne partout. Un peu comme l'intelligence artificielle, mais sans t'espionner.
Et que je sais plus quoi cuisiner. Qu'est-ce qu'on mangerait à soir?
OK, qu'est-ce que j'ai ici? Oui, celui qui m'envoie la meilleure joke risque de gagner une carte cadeau. Tiens, la poutine pour toute la famille.
As-tu pensé à ce que tu voulais regarder à soir à la télé puis ça me tente pas de passer ma soirée à checker des previews sur Netflix?
Hey, je vous ai préparé une liste de 2-3 séries, 6 épisodes, c'est closé, c'est fini.
Boulevard 102.1. Quand t'en as besoin, sans le savoir.
102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Marceau, le soir. Le soir.
On passe la soirée en compagnie de Pierre Jobin. Pierre Jobin qui a de multiples cordes à son arc. C'est un ex-animateur, un ex-journaliste, un chef d'antenne, Il a été aussi directeur de l'information, pilote d'avion. Il reste-tu des capitaines de bateau? Parce que là, tu m'as dit tout à l'heure que tu allais chercher ton bateau. Reste-tu des choses à accomplir, toi, là? Qu'est-ce qui te reste à aller chercher comme certification?
Non, mais je dirais honnêtement, là, puis ça, c'est vraiment sans prétention là, que je pourrais mourir demain. Pour vrai, là, j'ai pas mal fait tout ce que je voulais dans la vie. Ma conjointe lisait un livre récemment où elle me disait, tu sais, dans la vie, on peut être chanceux, mais il faut faire sa chance aussi. Je te disais tantôt, persévérer, foncer, ne pas accepter un non, trouver une façon de convaincre. Je pense que ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Et je vois mes enfants des fois, puis en fait, c'est plus ma conjointe qui les voit que moi, en disant, mon Dieu, des enfants sont pareils comme toi, des enfants sont pareils comme toi. Et bien, C'est, je pourrais mourir demain. En effet, j'ai pas mal fait. Je suis même allé dans un sous-marin aussi à Norfolk. J'ai pu visiter un sous-marin nucléaire. Je suis pas allé en mission dans un sous-marin. Mais j'ai pas mal fait. Il reste l'espace. Il resterait l'espace. Ça, c'est par contre, ça coûte un peu. À moins que je m'avais de chambre avec Elon Musk. Puis que je demande à Elon de me faire faire un petit voyage. Mais ça, c'est un petit peu trop dispendieux. Puis le tourisme commercial abordable, là, ça, je pense que je vais être mort quand ça va arriver. Alors, il resterait peut-être l'espace, disons.
Ben, je te le souhaite.
J'ai été chanceux.
Je te le souhaite. Oui. Tu es un passionné, tu es un touche-à-tout. Est-ce que tu es grand-père présentement?
Pas encore. C'est pour ça que aussi je voyage plus, là. Puis que je me disais, je vais prendre des. Je vais plus en profiter là, pendant qu'il n'y a pas de. Bon, j'imagine que dans 2-3 ans, il y aura un petit mono ou un petit gars qui arrivera. Mais non, pour l'instant, je ne suis pas un grand-papa encore.
Puis est-ce que tu appréhendes ce moment-là de te faire appeler grand-père? Parce que moi, j'ai des chums de 55 ans qui sont maintenant grands-pères. Là.
Non, j'appréhende pas ça. Au contraire, mes enfants disent tout le temps, il va falloir te checker parce que tu vas toujours vouloir leur donner des bonbons pour faire des affaires qu'on n'a pas le droit de faire. Mais bon, à part ça, non, j'appréhende pas ça. Non, c'est un événement heureux. C'est juste de pouvoir des fois donner un petit coup de main à tes enfants, de leur donner un petit répit. Alors, quand ça arrivera, je serai bien prêt pour le faire.
Ben oui, ça va faire partie de la retraite, mais moi, mon beau-père, parce que moi, j'ai perdu mes parents jeunes, mais du côté de la mère de mes enfants, j'ai mon ex-beau-père qui est là, puis ce qu'il fait, lui, il fait des affaires avec ses petits gars qu'il n'a jamais fait avec ses propres filles. Il leur permet peut-être, de faire des affaires, puis là, ça crée de la jalousie entre les enfants et les petits-enfants. C'est pas facile non plus être grand-père, là.
Non, ben t'as plus la liberté que t'avais pas avant. Avant, il fallait que tu fasses l'épicerie, ton 40 heures par semaine, ton ci, ton ça. Là, les petits-enfants, ben, quand j'en aurai, ils sont... Tu vas te dédier tout simplement à eux autres, tu vas les aider, tu vas pouvoir être présent à temps plein, sans contrainte de temps. Alors... Puis en plus, moi, je suis à 5h, 5h30, à tous les matins, je suis levé. Ça fait que ça ne me dérangerait pas de donner le biberon.
Non, c'est ça. Puis le grand-père de mes gars disent, quand je suis tanné, j'y remets aux parents. C'est la plus belle des jobs, être grand-père.
Oui, sûrement. J'ai hâte de vivre ce moment-là aussi, oui.
Pierre Jobin, ça a été un super de beau moment avec toi. Un gros merci. Je te souhaite une bonne continuité. Visiblement, tu es à la pré-retraite ou la retraite. Tu fais des petits contrats par-ci et par-là, mais tu as de l'air franchement heureux. C'était vraiment agréable de te réentendre.
Merci, Yannick. Puis, je me sers de tes ondes pour saluer les gens de Québec, les gens de Montréal aussi. Et puis, un jour, on se reverra sûrement quelque part à l'épicerie ou ailleurs.
On se le souhaite. Au plaisir de serrer la pince.
Je te souhaite de t'amuser aussi, toi, en aviation. Profites-en.
Ah, j'ai bien du plaisir. Je te dirais pas que je dirais pas comme toi que moi, je peux mourir demain matin et je vais être heureux. Là, mais oui, je m'amuse aussi de mon côté. Un gros merci. Passe une belle soirée.
Je retrouve un morceau de bois parce que j'ai dit que je pourrais mourir demain. Là. C'est
pour que je me trouve un morceau de bois. Oui, vite. Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur nos ondes, les amis. On se retrouve demain à la même heure. Salut tout le monde.
Merci.
Bye-bye.
Merci à vous. Marceau,
le soir. Du 27 au 29 juin, on passe en mode rodéo à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Jeudi, gala de lutte NSPW et hommage à AC/DC avec Hell's Bells. Vendredi et samedi, sous le chapiteau, David Pinault, Phil Lauzon et gros party au Saloon. Et dimanche, pour la journée de la famille, animation, mini-rodéo et spectacle à 15h. Achetez vos billets en ligne maintenant pour les trois rodéos. Faites vite, ça part vite. Accès gratuit au site Le Rodéo de Sainte-Catherine, présenté par Boulevard 102.1.
À la recherche d'un nouveau nid, pensez au condo locatif Le Charlie, situé près de la rivière Saint-Charles. Cette construction 2023 comprend l'eau chaude et Internet. Visitez lecharlie.ca.
C'est le moment parfait pour passer à l'électrique chez Marlin Chevrolet Buick GMC. Les subventions sont de retour et notre vaste inventaire d'Equinox et Blazer EV vous attend. Il y en a pour tous les goûts. Et ce n'est pas tout. L'événement camion bat son plein avec du financement à partir de 0% et plusieurs nouveaux arrivages ont fait leur entrée en concession. Ne manquez pas ça. On vous attend au 2145 rue Frank Carrel, Marlin Chevrolet Buick GMC, votre concessionnaire GM de confiance à Sainte-Foy.
C'est pas pour rien qu'ABBA, c'est le choix du consommateur depuis plusieurs années. Nos estimations sont gratuites, nos interventions sont rapides. Chez ABBA, on vend du résultat. Il y a plus de 1000 avis en ligne qui prouvent que notre solution, ben, elle fonctionne. ABBAExtermination.ca ou appelez-nous maintenant au 666-6667. Ba, 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 ABBA, une solution définitive.
Envie d'action et de découverte? À seulement une heure des ponts, les Etchemins vous attendent pour une escapade parfaite en famille. Plage, glissade d'eau, vélo montagne, randonnée, arrêt gourmand, festival et événements, tout y est pour bouger et s'émerveiller. Nature, plaisir et surprise au rendez-vous. Les Etchemins proches, gourmands et surprenants. Planifiez votre aventure sur tourismeetchemin.qc.ca. Tourisme Etchemin, c'est la nature à portée de route.
En montant dans une Prius hybride branchable toute neuve, vous pourriez tout d'un coup accepter de conduire des amis à un festival de musique au beau milieu de nulle part. Même si la musique est d'un style dont vous ignoriez totalement l'existence avant ce matin, tout ce qui reste à faire, c'est de la ramener à la maison. Pour découvrir de nouveaux modèles épatants comme la Prius hybride branchable, visitez achetezmatoyota.ca ou passez chez votre concessionnaire du Québec et repartez en Toyota.
Ce printemps chez Ashton, la Roast Beef Bacon Chipotle est à l'honneur. Avec son roast beef effiloché, son bacon émietté, sa sauce chipotle et ses oignons croustillants, elle est populaire comme jamais. La poutine roast beef bacon chipotle est disponible maintenant. Ashton, frais, vrai.
On le sait que vous vous ennuyez déjà de nos belles voix. Ce sera pas long. On vient.
On dit que rien ne se perd et que rien ne se crée. C'est parce que